ils avaient vraiment compris cela, qu'ils avaient cette communion avec le Père par le Fils, parce qu'ils ont reçu l'envoyé, celui que Dieu a révélé. Dieu ne s'est pas révélé, si je peux dire. Oui, c'était bien, il avait parlé par Moïse. À Moïse, eh bien, Dieu est venu parler dans la colonne, dans le buisson ardent, dans la colonne de feu. Dieu a parlé avec Moïse, mais il ne pouvait pas changer Moïse. En tant que, et ayant donné la révélation à Moïse, et bon, il a donné les lois, mais ça n'a pas empêché Moïse de pécher, de manquer à plusieurs occasions, parce qu'en tant que père, il pouvait dire quelle était sa loi, mais il fallait que l'homme soit d'abord réconcilié, qu'il soit d'abord rétabli dans la communion avec Dieu, qu'il soit agréé de Dieu, qu'il puisse être reçu par Dieu. Donc c'est en Jésus-Christ. C'est pour ça que nous ne vient au Père que par Jésus-Christ, et on ne peut pas aller à la source de vie qui est l'éternel. La source de vie, c'est l'éternel. Dieu en tant que Dieu, c'est lui la source de vie. En Jésus-Christ, c'est sûr, il a rétabli la source de vie. En Jésus-Christ, il a ouvert une source de nouveau, alors que sur la terre, il n'y avait pas de source de vie, aucune religion, aucune philosophie, aucune chose créée par l'homme ne pouvait ramener la vie, ne pouvait empêcher l'homme de mourir ou ne pouvait ressusciter l'homme. Seul Jésus-Christ. C'est glorieux. C'est glorieux d'abord en Jésus-Christ. Donc d'abord, il faut accepter le don de Dieu. Commencer par accepter qu'il y a un don. On a besoin d'un don. Alors que l'adversaire essaye toujours de nous faire dire « Oh ben, il faut d'abord que je fasse des bonnes œuvres, il faut d'abord que je m'améliore, il faut d'abord que je vienne ceci, il faut d'abord que je fasse cela. » Non, la première chose qu'il faut faire de l'abord, c'est de recevoir le don de Dieu, c'est de recevoir Jésus-Christ, la personne la victorieuse. Ils avaient la parole. Ils avaient la parole, mais ils avaient besoin d'un fils. Il fallait que la parole devienne un fils. C'est pour ça que c'est important qu'il peut dire à ces Thessaloniciens, ils sont en Dieu, le Père, et en Jésus-Christ, le Seigneur. Le Seigneur, c'est celui qui nous a rachetés. C'est bien marqué, Seigneur. Seigneur, c'est celui qui a payé le prix, qui est le Seigneur de l'esclave qui a été racheté. Jésus est Seigneur. Dieu, en tant que Père, il ne pouvait pas nous racheter. Il a fallu qu'il devienne un homme. Eh bien, c'est vrai que nous savons que c'est le même Dieu, que c'est l'Éternel lui-même qui est devenu notre salut, que c'est en lui, en Jésus-Christ, que ce Dieu a pu nous racheter. Mais il fallait qu'il devienne le Fils, il fallait qu'il devienne Jésus, et nous, pour nous approcher de Dieu, il faut d'abord qu'on accepte celui que le Père a donné, et après, on peut s'approcher de ce Dieu et apprendre à les connaître, les deux, à réaliser que ce Père, c'est lui qui avait envoyé le Fils, et c'est lui qui a voulu se réconcilier avec nous, et que c'est lui qui a fait toute l'œuvre. C'est important donc pour cette assemblée qu'ils ont vraiment saisi cette communion. Plus tard, c'est Jean qui le dit dans son épître, quand il dit, nous, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché, nous vous faisons connaître ce qui concerne la parole de la vie. Afin que vous soyez en communion avec nous, nous vous faisons connaître pour que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Le Père et le Fils, Jésus-Christ. Amen. Oui. Le Père et le Fils. Qu'on ait la communion complète du Dieu véritable, le Dieu qui nous a rachetés par Jésus-Christ et qui est devenu notre Père par Jésus-Christ. Il était le Père dans le sens qu'il nous a donné la vie, mais une vie qui était perdue, une vie qui avait été détruite par l'incrédulité, parce qu'on a prêté l'oreille aux paroles du menteur, et alors cette vie que Dieu nous avait donnée, cette vie physique, était perdue. On écoutait toujours ce que la chair nous montrait. Mais maintenant, Dieu a voulu nous introduire dans la vie éternelle, ce que le Père va nous montrer. Mais pour nous introduire, il faut venir au Fils. Il faut d'abord venir au Fils qui nous a rachetés et accepter ce don de Dieu. Ainsi, pour tous ceux qui l'ont reçu, il leur a été donné la vie éternelle. Il leur a été donné la capacité de devenir enfants de Dieu. Pas ceux qui sont pas nés. C'est pas ceux qui sont nés par la chair ou par un autre moyen, non, mais qui sont nés de Dieu par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est une petite parole qu'on voit ici, mais qui a son importance, parce que quand il dit cette parole aux Thessaloniciens, l'Église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père. Mais c'est merveilleux, ce petit « il est ». Elle est, cette Église, elle est. Elle est vraiment en Dieu, le Père, et en Jésus-Christ, le Seigneur. Alors, il peut leur parler et vraiment leur souhaiter que la grâce et la paix vous soient données. Si on peut pas, si on n'accepte pas le don de Dieu, et si on n'accepte pas d'être conduit à la connaissance de notre Père Céleste, la grâce et la paix peuvent pas venir véritablement. Parce que la grâce, elle est là en Jésus-Christ, mais la paix, c'est retrouver la maison. La paix, c'est retrouver le Père, c'est retrouver sa famille, c'est retrouver son habitation. Nous sommes appelés à habiter avec le Père. Amen. Donc c'est important que ces petites paroles qui sont là au commencement, parce qu'elles placent directement les Thessaloniciens, c'était quand même une église qui a eu, en très peu de temps, il avait seulement été 15 jours là-bas, même pas 15 jours, Paul. Il semble qu'il a pu leur révéler toutes les choses essentielles de la foi, même à la... C'est de là, dans cet épître aux Thessaloniciens, qu'il est question du retour du Seigneur Jésus-Christ au temps de la fin. Il y a deux épîtres aux Thessaloniciens, mais c'est dans ces passages-là qu'on a les révélations les plus importantes à ce qui concerne le temps de la fin pour le retour du Seigneur. Amen. C'est là dans ces paroles. Donc, il y avait eu une révélation profonde des desseins de Dieu dans cette église, et vraiment la grâce de Dieu et la paix étaient au milieu d'eux. Verset 2, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. » Donc, il dit, l'apôtre Paul, qu'il s'était continuellement à remercier Dieu. Rendre grâce et remercier Dieu pour vous tous, pour le fait que tous étaient ainsi dans cette position de foi et de révélation du Père et du Fils. Et je pense que justement, dans le temps de la fin, c'est précisément cette parfaite communion, cette parfaite révélation de l'unité du Père et du Fils, moi et le Père, nous sommes un. Alors, quand il y a cette révélation de l'unité du Dieu, le peuple de Dieu lui-même est un avec son Dieu. Il entre dans cette communion, dans, cette communion, pas seulement de connaissances, mais une communion d'action. Alors, le pape, l'épouse de Jésus-Christ peut accomplir son ministère, puisqu'elle a un ministère, elle a un service, elle a un témoignage qu'elle doit apporter dans ce monde au temps de la fin. C'est elle qui doit apporter ce dernier témoignage. C'est pas les ministères. Les ministères sont pour l'édification du corps, mais c'est les corps lui-même qui va, les disciples de Jésus-Christ qui vont rendre témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est comme cela. C'est le corps. C'est le temps du corps. Nous rendons donc continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Et puis, il dit ensuite, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Donc, vous voyez là, il y a plusieurs choses desquelles il se rappelle, qui sont frappantes. Premièrement, c'est la foi, comme il dit, l'œuvre de votre foi. L'œuvre de votre foi. Ça veut dire qu'il y avait des œuvres qui s'accomplissaient à cause de la foi, qu'ils avaient une pleine foi dans le Seigneur Jésus, dans le nom de Jésus. C'était au nom de Jésus, chassait les démons, guérissait les malades, il prêchait l'évangile partout. Et c'est ainsi que, premièrement, ils voyaient les œuvres de leur foi, et puis le travail de votre amour. Ils parlent des œuvres de la foi et du travail de l'amour. Est-ce qu'on n'aurait pas pu dire aussi l'œuvre de l'amour? Non, ils voulaient montrer qu'il y avait une volonté d'action par amour, parce qu'ils avaient de l'amour pour ce monde qui que Dieu voulait racheter. Alors ils étaient au travail, vraiment, ils pouvaient pas se lasser, ils réalisaient, parce que le travail de votre amour, c'était le fait qu'il rendait témoignage de la volonté de Dieu de secourir, de guérir, de sauver et de faire entrer dans le royaume de Dieu. À cause de cet amour, il y avait un travail qui pouvait se faire, et puisque il fallait qu'il se fasse le travail de l'amour, je sais bien qu'on peut dire aussi le travail de leur amour qu'ils avaient à l'égard du Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand le Seigneur a dit, dans le chapitre 6 de Jean, quand il avait dit, travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle que le Fils de l'homme vous donnera. Ils ont dit, mais quelle est la nourriture? Quel est le travail? Quel est le travail? Elle a dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez dans celui que le Père a envoyé. C'est-à-dire que le travail de l'amour, c'est quand même, c'est un travail parce que, on pourrait comparer notre vie comme un terrain qui est rempli de racines, de mauvaises herbes, de toutes sortes de choses, et il faut creuser, il faut arracher, il faut travailler ce terrain. Donc, le terrain, c'est notre propre vie, pour que notre raison d'être, elle puisse être pour le Seigneur. Et si c'est pour le Seigneur, si on travaille cet amour pour le Seigneur, on travaille aussi pour tout ce qu'il a créé, pour toute la création, pour tout ce qu'il a fait. Nous travaillons, ça nous donne d'avoir de l'amour pour les œuvres de Dieu. Et pour cela, il y a une persévérance dans le travail. Le Seigneur a placé Adam, nous le savons bien, qu'il avait un travail, puisqu'il devait garder le jardin, puisqu'il devait cultiver le jardin, mais c'était un travail, c'était son plaisir. C'était, ce que Dieu lui avait donné de faire, c'était la façon de prolonger, de conquérir la terre. Il fallait qu'il plante les jardins, qu'il étende et qu'il se multiplie et qu'il remplisse la terre. C'était le travail qu'il avait reçu. Et maintenant, est-ce que le travail de Dieu n'est pas que les âmes puissent entendre cet évangile? Si c'est écrit que cet évangile du royaume doit être prêché dans le monde entier en témoignage avant qu'arrive la fin, ça veut dire que le travail qui doit être fait, c'est que cet évangile doit être prêché, doit être apporté, doit être présenté. Si à l'amour pour le Seigneur, ce travail va se faire. Amen. Et puis, la fermeté de votre espérance. L'espérance, ce sont les choses que nous ne voyons pas encore. L'espérance, c'est d'être avec lui dans son royaume. Mais le royaume, nous ne le voyons pas encore dans sa plénitude. Nous le voyons en esprit, nous le voyons au travers de la parole. Nous savons que c'est la justice, que c'est la paix, que c'est la joie, que c'est la lumière, que c'est l'amour, Dieu est amour. Nous voyons ce royaume, mais nous espérons nous y trouver. Nous voulons y aller. Notre espérance, c'est justement d'atteindre, de nous, si nous travaillons, si on travaille d'amour, c'est aussi parce qu'il y a une assurance, qu'il y a l'espérance va être accomplie un jour. Et notre espérance va devenir la réalité. Et on va se trouver dans ce royaume. On va se trouver dans cette vie de résurrection et de communion parfaite avec Dieu. Et puis, donc, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, il est devant Dieu, notre Père. Voilà. Donc, encore une fois, là, on voit, il montre bien, il y a cette foi dans celui que le Père a envoyé, mais aussi cette foi que nous sommes devant le Créateur même des cieux, de la terre, de toute créature. Ce Dieu, ce Créateur, là, nous sommes devant lui. C'est devant lui que nous vivons. Nous ne sommes pas une sous-classe, non. Il nous a créés à son image. Il veut nous ramener par cette œuvre de Jésus-Christ, œuvre de rachat, il nous ramène à cette communion, cette image de notre Père, et à l'image même de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est déjà des paroles merveilleuses qui sont dites ici. Et puis il continue, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Nous sommes des élus. Un élu, une élection, un élu, en somme, c'est le résultat d'un choix. C'est un choix. Bon, il y a des élections parmi le monde, alors c'est un nombre de voix qui détermine qui a raison. Mais de toute façon, c'est un choix. C'est un choix si tu es pour ou tu es contre, mais pour finir, eh bien, il est choisi. Si la majorité est là, ben, c'est lui qui est choisi. Mais notre choix, notre élection, il dépend de Dieu. Regardons dans 1 Pierre, au premier chapitre, il y a une parole qui en parle. 1 Pierre, premier chapitre, je lis le premier verset déjà. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Vous voyez, là, c'est l'apôtre Pierre qui parle de l'élection, mais on voit bien qu'il a la même pensée que Paul. Il dit, ceux qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, c'est-à-dire parce que Dieu, ils sont élus, on est élus parce que Dieu nous a connus. Il a connu ce qui nous sommes. Il a vu à l'avance quelles seraient nos réactions devant les différentes circonstances de la vie. Et il a vu si un jour, eh bien, on peut avoir conduit la plus mauvaise vie, mais il a vu qu'un jour, eh bien, on accepterait la répréhension et on accepterait le chemin de rétablissement, du retour à la maison du Père. Donc, il a vu, c'est la préscience, selon la préscience de Dieu le Père. C'est la préscience de Dieu le Père et l'élection a eu lieu par la sainte... Vous voyez, il était élu selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit. Donc, l'action, ce qui a permis à l'homme pécheur de devenir un élu, c'est l'action de l'Esprit. C'est l'Esprit qui conduit dans toute la vérité de la parole de Dieu. C'est l'Esprit qui peut révéler la valeur du sacrifice de Jésus-Christ. Donc, par la sanctification de l'Esprit, et c'est l'Esprit qui nous conduit à entrer dans les desseins de Dieu et à demeurer dans la volonté de Dieu. C'est par l'Esprit, c'est par le secours de l'Esprit. Donc, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Et un élu, eh bien, c'est un croyant obéissant. Alors, si on n'est pas obéissant, c'est qu'on n'est pas un élu. Un élu, il obéit au Père, à la parole. Il se laisse conduire et inspirer par le Saint-Esprit. Donc, obéissant, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'ils puissent bénéficier de ce sang, de cette vie qui a été donnée. Parce que dans le sang, il y a la vie, il y a l'âme. C'est l'âme, c'est la nature. C'est la nature du Fils de Dieu qui se trouvait dans le sang. C'est pour ça que sans l'effusion du sang, sans le don de l'âme, on ne pouvait pas avoir une nouvelle naissance, on ne pouvait pas avoir une nouvelle vie, on ne pouvait pas être changé. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui puisse remplacer la nature du péché. L'apôtre Paul dit cela dans le chapitre 7 des Romains quand il dit je veux faire le bien, mais quand je veux faire le bien, je fais le mal que je veux pas faire. Je vois qu'il y a en moi une loi qui m'oblige à faire ce que je veux pas faire. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est le péché. Mais c'est le péché. Le péché, c'est l'incrédulité. Donc, il faut que l'incrédulité soit ôtée et que l'âme, la nature de celui qui était pleinement obéissant puisse venir vivre en moi. Donc, il fallait que Jésus verse son sang pour que son âme, pour que sa nature puisse revenir sur les disciples. Elle est revenue par le Saint-Esprit. Amen. Mais c'est parce que le sang avait été versé. Si le sang n'avait pas été versé, l'Esprit ne pouvait pas mettre la nature de Jésus-Christ. C'est étroitement lié, c'est indissociable. le sang, le sacrifice de Jésus, son sang qui est versé à Golgotha, et la vie nouvelle qui vient en moi par le Saint-Esprit, ne peuvent pas être séparés. S'il n'y a pas la mort de Jésus, il ne peut pas y avoir sa vie qui vient en moi. C'est pour ça que c'est tellement important, le sacrifice de Jésus-Christ. Déjà, le sang des animaux était indispensable. Ceux qui voulaient, comme Caïn, il a voulu offrir des fruits, il a voulu offrir des légumes, je ne sais pas trop quoi, mais quelque chose qui n'avait pas de sang, qui n'avait pas d'âme. Parce que quand même, il y a une vie semblable à la nôtre dans un animal. Bon, c'est pas la vie, c'est pas la même vie. C'est pour ça que le sang de l'animal, je veux dire l'âme qui était dans le sang de l'animal, ne pouvait pas venir sur l'homme, la nature de l'animal. On n'est pas fait pour cette nature. Il fallait que ce soit la nature d'un fils de Dieu. D'un homme, mais un vrai fils de Dieu. Il fallait que ce soit cette nature du fils de Dieu qui puisse être libérée par la mort pour qu'elle puisse revenir sur le croyant par le Saint-Esprit. Donc, vous ne pouvez pas... Bon, on veut le Saint-Esprit, mais on ne veut pas mourir avec Christ. Je veux dire, on ne veut pas accepter cette mort à nous-mêmes avec le Seigneur Jésus, pour le Seigneur, simplement parce que c'est la première chose qu'il nous demande. Est-ce qu'on a l'amour suffisant pour livrer, pour donner sa vie, pour renoncer à sa propre volonté, pour pouvoir dire, ben non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Alors, si la mort peut agir aussi en moi, le renoncement à ma nature pécheresse, parce que là aussi, il faut que j'accepte de mourir, moi, ma nature habituelle, héritée de mon père, héritée depuis Adam, il faut que j'accepte cette nature meurt. Que je sois... Vous comprenez la chose? Mais c'est très profond. Si je ne peux pas accepter cela, est-ce que la nature du Fils de Dieu peut venir là où règne encore la nature du vieil homme? Il ne peut pas y avoir la nature du premier Adam et puis celle du dernier Adam. C'est pas possible. Pour qu'il y ait la nature du dernier Adam, il faut que le premier meure. Et puis même quand Paul donne l'exemple, il dit une femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il vit. Mais si son mari meurt, elle est déliée. Elle peut donc devenir la femme d'un autre. Mais tant que son premier mari est vivant, elle ne peut pas devenir la femme d'un autre. Mais ça, c'est une image de notre mort quant au premier Adam et de notre renaissance, de notre mariage avec le dernier Adam. Amen. Vous voyez? Donc, la question de la mort, de sang. Et là, il dit bien, il faut que ce sang, il faut qu'on puisse avoir part. Je relis, vous verrez l'ensemble. Verset 3. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Dieu, le Saint, et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Ça veut dire, tel que nous étions, nous nous sommes montrés, tel que nous étions, c'est tel que nous avons été transformés. Nous avons montré Christ en nous, pour que vous puissiez bien comprendre que c'est Christ qui doit pouvoir venir habiter en vous, Amen. C'est vrai. Donc, il y a une œuvre qui doit s'accomplir et, afin que nous... Où est-ce qu'il est, les questions du sang? Aspersion du sang. Ah! C'est dans Pierre. C'est ça que j'aurais dû relire d'abord. C'était ça. Mais je vais revenir en arrière à Pierre. C'est là que je voulais relire quand même. À cause de cette pensée du sang qui doit... On doit avoir part à l'aspersion du sang. Parce que l'aspersion du sang, la foi dans le sang qui était répandu, eh bien, nous introduit, nous permet de recevoir le Saint-Esprit. Et qui sont élus. Alors voilà, Actes des élus, verset 2. Qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données. Donc c'est ça, le but, c'est qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. L'élection a eu lieu pour cela. Je relis encore une fois, hein? C'est bien ça. Ils sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, les élus toujours, et que les élus participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Et c'est de ça qu'il parle ici, dans l'Épître aux Thessaloniciens. Il dit, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Et après, il peut dire, pourquoi est-ce que nous le savons? Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Cet évangile, évangile du royaume, cet évangile qui était prêché au commencement, c'est le même évangile qui doit être prêché à la fin. Il faut qu'on puisse amener les gens. Là, on voit que les Thessaloniciens, ils ont été amenés directement à une foi, à une connaissance du plan de Dieu, même pour l'enlèvement. C'est à eux que l'apôtre Paul peut leur parler de l'enlèvement, comment ça ira. Un commandement, un cri au son de la trompette, il descendra, les morts en Christ ressusciteront, puis nous serons transmis, etc. Il parle de ça. Mais pourquoi est-ce qu'il peut parler aux Thessaloniciens? Il n'en a pas parlé aux autres. Il y a certainement une raison. Mais c'est parce qu'ils avaient, ils ont vraiment été éclairés, ils sont entrés dans ce plein évangile. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Le Seigneur agit actuellement pour que nous arrivions à là. Mais je vais m'arrêter parce que le temps s'est avancé. Quand même, je m'arrête en relisant une fois le verset 5 dans les Thessaloniciens. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Voilà ce que l'apôtre Paul peut rendre témoignage de la manière dont il a apporté cet évangile. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Nous nous sommes montrés ainsi, tels que nous étions. Amen. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit. Ça, c'est l'apôtre Paul qui rend témoignage que eux-mêmes, eh bien, ils ont vraiment reçu la parole Malgré qu'il y avait beaucoup d'afflictions, d'oppression, d'opposition, ils ont reçu la parole. Malgré tout cela, ils ont reçu cette parole. On peut vraiment s'accomplir en eux. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Mais cette fois, je m'arrête. Donc, ils étaient un modèle. Un modèle pour qui? Si ce n'est pas pour nous maintenant, alors c'était pour qui? Mais je crois que c'est pour nous, justement, puisque c'est un retour. On voit que c'est des gens qui sont entrés vraiment dans l'Évangile. Ils sont entrés pleinement dans l'Évangile. L'apôtre Paul, en 15 jours, il a pu leur parler de toutes les vérités importantes de l'Écriture, même la résurrection, le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est glorieux, c'est ce que le Seigneur a pu faire. Amen.